S'il est haut baron dont vous êtes le plus haut, monseigneur, dit Marigny, c'était soumis de meilleur gré aux ordonnances royales. Nous n'aurions pas eu besoin de nous appuyer sur le peuple.
Bel appui, en vérité, cria Valois. Les émeutes de 1306, où le roi et vous-même avez dû contre Paris soulever, vous réfugier au temple, oui, je vous le rappelle, au temple, ne vous ont guère servi de leçon. Je vous prédis qu'avant qu'il soit longtemps, si l'on continue de ce train, les bourgeois se passeront du roi pour gouverner. Et ce sont vos assemblées qui feront les ordonnances.
Le roi se taisait, le menton dans la main et les yeux grands ouverts fixés droit devant lui. Il ne battait que très rarement des paupières. Cécile restait en place immuablement pendant de longues minutes. Et c'était cela qui donnait à son regard l'étrange fixité dont tant de gens s'effrayaient. Marigny se tourna vers lui comme s'il lui demandait d'user de son autorité pour arrêter une discussion qui s'égarait. Philippe le Bel souleva légèrement la tête et dit « Mon frère, ce ne sont point des assemblées, mais des templiers que ce jour nous nous occupons. »«
Soit, » dit Valois en tapotant la table,
« occupons-nous des templiers. »
« Nogaret, » murmura le roi. Le garde des Sceaux se leva. Depuis le début du conseil, il était brûlé d'une colère qui n'attendait que l'instant d'éclater. Fanatique du bien public et de la raison d'État, l'affaire des Templiers était son affaire. Et il y apportait une passion qui ne connaissait ni limite ni repos. C'était d'ailleurs à ce procès du Temple que Guillaume de Nogaret devait, depuis la Saint-Maurice de l'an 1307, sa haute charge dans l'État. Ce jour-là, au cours d'un conseil qui se tenait à Maubuisson, l'archevêque de Narbonne, Gilles Eslin, alors garde des Sceaux royaux, s'était refusé tragiquement à apposer ceux-ci sur l'ordonnance d'arrestation des Templiers. Philippe le Bel, sans un mot, avait pris les Sceaux des mains de l'archevêque pour les mettre devant Nogaret, faisant de ce légiste le second personnage de l'administration royale. Nogaret était ardent, austère et implacable comme la faux de la mort. Osseux, noir, le visage en longueur, il tripotait sans cesse quelque partie de son vêtement ou bien rongeait l'ongle d'un de ses doigts plats. « Sire, la chose monstrueuse, la chose horrible à penser et terrible à entendre qui vient de se produire, commença-t-il d'un ton à la fois emphatique et précipité, prouve que toute indulgence, toute clémence accordée à des suppôts du diable est une faiblesse qui se renverse contre vous. « Il est vrai, dit Philippe le Bel en se tournant vers Valois, que la clémence que vous m'avez fait conseiller, mon frère, et que ma fille d'Angleterre m'a demandé par message, ne semble guère porter de bons fruits. Continuez, Nogaret. On laisse à ces chiens pourris une vie qu'ils ne méritent pas. Au lieu de bénir leurs juges, ils en profitent pour insulter aussitôt l'Église et le roi. Les Templiers sont des hérétiques.
Était, laissa tomber Charles de Valois.
Vous dites, monseigneur, demanda Nogaret impatient.
Je dis était, messire. Car si j'ai bonne mémoire sur les milliers qu'ils se comptaient en France, et que vous avez banni, ou claustré, ou roué, ou rôti, il ne vous en reste plus que quatre entre les mains. Assez embarrassant, je vous l'accorde, puisqu'après 7 ans de procédure, ils viennent encore clamer leur innocence. Il semble que naguère, messire Nogaret, vous alliez plus vite en besogne, lorsque vous saviez d'un seul soufflet faire disparaître un pape.
Nogaret frémit, et la peau de son visage devint plus foncée sous le poil bleu de sa barbe. Car il demeurait l'homme qui avait conduit jusqu'au cœur du Latium la sinistre expédition destinée à déposer le vieux Boniface VIII et au bout de laquelle ce pape de 88 ans avait été giflé sous la tiare pontificale. Nogaret s'était vu en retour frappé d'excommunication et il avait fallu tout le pouvoir de Philippe le Bel sur Clément V, deuxième successeur de Boniface, pour obtenir la levée de la sentence. Cette pénible affaire n'était pas tellement ancienne, elle ne datait que de 11 ans. Et les adversaires de Nogaret ne manquaient jamais l'occasion de la lui rappeler. « Nous savons, monseigneur, répliqua-t-il, que vous avez toujours appuyé les Templiers. Sans doute comptiez-vous sur eux pour reconquérir, fût-ce à la grande ruine de la France, ce trône de Constantinople sur lequel il apparaît que vous ne vous êtes guère assis. » Il avait rendu outrage pour outrage, et son teint reprit meilleure couleur.
« Tonnerre !»
s'écria Valois en se dressant et en renversant son siège derrière lui. Un aboiement parti de dessous la table fit sursauter les assistants, sauf Philippe le Bel, et éclater de rire nerveusement Louis de Navarre. L'aboiement venait du grand lévrier que le roi avait gardé près de lui et qui n'était pas encore habitué à ses éclats.
« Louis, taisez-vous, » dit Philippe le Bel en posant sur son fils un regard glacé.